La dernière fois, les deux dernières fois, c'est les deux premières séances, je vais pressurer en vous montrant, en vous présentant, vous en travaillez d'abord sur des œuvres très spectaculaires de quelques-uns des artistes qui forment le Gotha de l'art universel, pourrait-on dire. La dernière fois, on s'est au contraire restreint à la France pour essayer de voir quels étaient certains des artistes français les plus célèbres dans le monde aujourd'hui. La séance de ce jour, je vais peut-être fermer le petit signe.
Je suis bien.
On verra mieux. Voilà. La séance de ce jour se recentre sur le monde entier, et plutôt que d'aller divaguer vers des installations ou des choses un peu spéciales, comme ce qu'on a pu voir les fois dernières. Aujourd'hui, on va retourner dans quelque chose de plus traditionnel, de plus pépère, si vous me permettez cette expression, parce qu'on va parler peinture. On ne va pas divaguer dans des domaines un peu particuliers. On va regarder la peinture qui se fait aujourd'hui à travers 9 artistes qui sont peut-être à considérer parmi aujourd'hui les peintres les plus importants du moment dans le monde. J'en ai choisi 9, j'aurais pu en choisir un peu plus, mais enfin, il faut bien faire un choix. Alors, il n'y a peut-être pas tous les peintres importants, mais enfin, il y a là une belle brochette d'artistes dont on parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Et le petit exercice que je vous propose aujourd'hui est très simple. Hein. Le thème est simple, l'exercice est simple. Je vous ai mâché le travail. Bien. Ce que l'on va faire. Oui, on verra. Ce que je vous propose donc, c'est de regarder un à un ces 9 artistes. J'ai choisi pour chaque artiste 3 œuvres. Hein. Et bien entendu, avant de vous dire quel est l'artiste, on verra d'abord les 3 œuvres. Et pour chacun des artistes, on va regarder ses œuvres, en parler, peut-être essayer de les mettre dans le bon ordre. Hein. J'ai fait exprès de les mettre dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique. Alors on le rétablira, cet ordre chronologique. On essaiera peut-être de trouver, pourquoi pas, de quelle nationalité est l'artiste en question. On verra si les œuvres, à vrai dire, sont capables de dire quelque chose sur la nationalité de leur auteur, le sexe de leur auteur. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? On essaiera de voir. Hein. Peut-être également de voir comment il se situe dans les courants artistiques mondiaux. Bref, on va essayer de regarder tout ça. Alors, je vous propose que nous commencions sans attendre. Il y a 9 artistes. On essaiera de passer 10 minutes par artiste. Je vous passe des règles que vous connaissez par cœur. Et on essaiera aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière où j'ai beaucoup débordé, de ne pas trop le faire. Après tout, 1h30, c'est 1h30. Alors, voilà, 3 peintures du premier artiste que je vous soumets. Voilà la première, voilà la deuxième, et voilà la troisième. Voilà donc 3 œuvres d'un seul et même artiste. Encore une fois, je ne vous dis pas ni l'ordre chronologique de ces peintures, ça va être à vous de l'établir, ni le sexe de l'auteur de ces œuvres, ni sa nationalité. Je vous montre ces peintures. Alors j'aimerais que, à travers ces différentes œuvres, vous essayiez de remettre un peu les choses en ordre et peut-être, pourquoi pas aussi, de retrouver, si vous le savez, l'auteur de ces peintures. D'abord, je vous ai passé ces 3 peintures. Est-ce que vous pouvez rapidement me dire un mot sur chacune des 3? On commence par celle-ci. Un paysage, on dirait une photo. Donc, il y a un côté très réaliste, très féeriste, effectivement. Oui. Beaucoup de ciel. La moitié du tableau, c'est un ciel, effectivement.
Le contraire d'une photo choquante.
Le contraire d'une photo choquante. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est un paysage extrêmement réaliste, très photographique. On pourrait même croire que ce n'est pas une peinture, mais c'en est une, hein, c'est peint. Voilà, et donc quelque chose de très proche de la réalité, où le ciel est extrêmement présent. Ok, très bien. C'est bon, on passe à la suivante. Donc, du même artiste, ceci. Plus fouillis. Plus abstrait. Alors, tout à fait abstrait. Très coloré, très végétal. Ah, très végétal. On pourrait y voir, parce qu'il y a beaucoup de vert, une dimension un peu végétale, même si c'est abstrait. On pourrait y voir une dimension végétale, effectivement. Par rapport à l'œuvre d'avant, qui est du même artiste, je vous rappelle, qu'est-ce que ça vous inspire? Grand changement.
L'ombre et la lumière dans les 3.
Dans celui-ci aussi, en tout cas la lumière au moins. Oui.
Ouais. Le ciel est plutôt assez.
Un petit bout de bleu.
Il n'y a pas de ciel, non. Bah, d'ailleurs, c'est un tableau abstrait. Donc, à vrai dire, il n'y a ni ciel, ni rien d'autre.
Il est en opposition.
Il y a de la matière.
Il est en opposition avec le premier.
L'autre est. Non, c'est une peinture, l'autre. Tous les trois sont des peintures. Hein. Voilà. Donc, si je vous entends bien, on a là un tableau radicalement différent du précédent, et pourtant du même artiste. Un tableau abstrait, alors que le premier tableau était non seulement très concret, mais très, très réaliste, hein, presque photographique. Vous y voyez, par contre, quelque chose d'un peu équivalent en termes d'ombre et de lumière, de couleur, un peu, peut-être. Hein. Voilà. Là, c'est très très coloré, oui. On voit le troisième.
Une
tête de femme.
Une nuque.
Une nuque.
Un chignon.
C'est
beau. Enfin, moi, je vois
un signe. Un oiseau.
Moi, je vois une
un signe. Ah.
Une femme qui lit.
Alors, vous voyez un oiseau, un signe. Pas tout à fait. Enfin, toutes les femmes sont des signes, n'est-ce pas? Et des oiseaux, mais enfin, quand même.
Pas tout, quand même.
Pas tout.
Alors
voilà. Donc, on a effectivement une femme vue de dos. Hein. Donc, vous voyez la tête, le cou, la nuque, un petit chignon, les épaules, et cette femme est en train de dire quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette peinture, hein, qui est donc une peinture figurant, effectivement, une femme lisant vue de dos?
C'est flou.
Alors, on dirait une photo floue. Hein. C'est une peinture, mais qui est peinte comme si c'était une photo floue. Alors, même question par rapport aux deux tableaux précédents qui sont du même artiste. Hein. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est complètement différent.
Beaucoup de lumière.
Lumière, peut-être le même contraste ombre-lumière que dans le premier, au moins des tableaux, voire dans le deuxième. Ouais.
Toujours pas la tête.
Vous voyez pas la tête.
Le cou.
Voilà les cheveux. Voilà la. Je peux pas trop le faire, mais le chignon, n'est-ce pas, qu'il y a derrière là. Et voilà le chouchou qui tient le chignon. Chouchou, c'est ça. Voilà donc là le profil fuyant, le cou, les épaules sont là, et ça, c'est la feuille de papier que la dame est en train de faire.
Est-ce que c'est réellement ça?
Alors c'est réellement ça. C'est réellement ça. Vous voyez pas non plus? Dans le fond, vous voyez? Ouais, hein? Donc, ça, là, c'est l'œil, le nez doit être quelque part par là. Mais puisque c'est une personne qui est.
En trois quarts.
Je fais une reconstitution historique. Hein, c'est comme ça. Elle est comme ça, si vous voulez.
Voilà.
D'accord? Sauf que je n'ai pas tout à fait. Bien. Donc, il faut un peu sublimer. Hein. D'accord?
Voilà. Donc, premier,
okay. Oui, le premier avait en effet beaucoup de couleurs, là non. On est essayé dans des couleurs assez sourdes dans les deux cas, mais effectivement. Hein.
Oui, mais il y a de la lumière.
Il y a de la lumière.
Mais il n'y a pas de vert.
Pas de vert.
Non, mais ça, il s'est utilisé les
alors,
couleurs.
Alors, si vous aviez à résumer la personnalité de cet artiste, d'abord, vous mettriez ça peut-être dans quel ordre? Est-ce que vous mettriez un ordre de ces peintures-là, hein, ces peintures-là? Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur cet artiste, sur ses épaules d'intérêt, sa manière de peindre, son regard sur la peinture, sa proposition artistique, c'est quoi?
Elle a changé de style.
Voilà, c'est un artiste qui change de style, pourrait-on dire, peut-être, oui.
Il sait maîtriser les couleurs, quelles qu'elles soient.
Qui maîtrise les couleurs, oui. Une interrogation par rapport à la photo, effectivement.
Et puis une interrogation sur la technique. Comment c'est vrai, horizontal?
Oui, c'est pictural. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait dans sa peinture ce que l'on voit dans une photo floue ratée en plus.
Oui, voilà.
C'est-à-dire des rayures sur soit le papier, soit le négatif, qui sont, se retrouvent sur la photo. En fait, on a la même vision hyper réaliste floue que dans le paysage de tout à l'heure.
Oui.
Sauf que là, c'est une photo ratée, dans le paysage, c'est une photo pas ratée.
Bien.
Très bien. Ben, vous avez effectivement analysé assez bien, je crois, les tenants et les... Oui, pardon.
Pour certains artistes, on dit qu'ils ont des problèmes de vision. Le blackout.
Non, non.
Est-ce que là, il n'avait pas quelque chose qui commençait à...
Cataracte?
Non, parce que... Non, en fait, non. C'est un artiste qui voit comme vous et moi. Enfin, il a des lunettes, en l'occurrence, mais ça n'empêche pas On a des spécialistes là-bas qui pourraient nous dire des tas de choses là-dessus. Mais non, c'est un artiste qui n'a pas de problème de vision particulier, si vous voulez. Hein. Et notamment le tableau que vous avez là, il ne l'a pas fait du tout. C'est déjà un tableau qui a quelques années, donc il n'a pas fait du tout à un moment où il y avait des problèmes de vision particuliers. Hein. Donc non, c'est vraiment volontaire. Hein. Donc la volonté de présenter ça, c'est bien. Donc on a là effectivement un artiste qui est très éclectique, hein, qui a, j'allais dire, qui endosse des manières différentes. Hein. Il va de l'abstraction totale, absolue, colorée, gestuelle, en matière, hein, à des choses très réalistes, paysages ou personnages, quitte à flouter encore ses œuvres pour les rendre encore plus proches d'une véritable photo ratée, si j'ose dire. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez une idée peut-être du peintre en question ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, est-ce un peintre ou une peintre ? Un peintre ? Est-ce que vous avez une idée peut-être de la génération de cet artiste ? Parce que dans les peintres que je vous ai choisis, hein, il y a des artistes plus jeunes et d'autres un peu plus âgés. Voilà. Donc, à votre avis, de quelle génération, à quelle génération appartient le peintre que vous avez là ?
Et, la dernière.
Pardon.
Le début de la dernière génération.
Le début de la dernière. Donc un peintre qui a quoi, une quarantaine d'années peut-être.
Non, plus ancien.
Ah, plus âgé.
Notre âge.
Ah oui,
mais notre âge.
C'est-à-dire tout jeune. Donc, c'est un jeune artiste. On a là donc un jeune artiste. Hein. J'ai pas dit très jeune, j'ai dit un jeune artiste. Hein. Ok. Bien. Une nationalité peut-être. On va voir si la peinture dit son pays après tout. Non.
C'est
trop nordique,
hein.
Nordique, anglais. Nordique, anglais.
Oh non. Ouais. Oh
non.
Non. Bon. Belge.
Vas-y.
Alors. Le peintre dont je vous ai passé ici trois œuvres, vous avez assez bien analysé, hein, très rapidement, on a 10 minutes par tableau, hein, par artiste. Vous avez bien analysé, je crois, ce qu'il en était. Ce peintre, c'est lui. Il s'appelle Gerhard Richter. Voilà. Je crois aussi, je trouve aussi.
Parce que Richter, on le reconnaît.
Eh oui. Oh, le deuxième tableau était assez reconnaissable. Hein. Richter, on en avait déjà parlé il y a un an ou deux, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé d'art moderne. Hein. Parce que Richter est un artiste qui est né en 1932, alors il est tout jeune, enfin, ça fait quelques années qu'il peint quand même. Hein. Et donc Richter est un artiste effectivement très multiforme. Hein. Je vous ai montré trois tableaux. Hein.
Et puis celui qui est derrière lui, peut-être.
Celui qui est derrière lui, lui aussi. Donc vous voyez que c'est encore autre chose. Hein. J'ai choisi de montrer trois tableaux par artiste, donc voilà... C'est évidemment toujours un peu limité, mais il fait des œuvres, vous le voyez, extrêmement géométriques. Hein. Je tiens par parenthèse à dire que dans les artistes qu'on va voir aujourd'hui, qui vraiment travaillent la peinture, on parlera uniquement d'artistes hors l'art, j'allais dire, abstrait géométrique d'avant-garde. Hein. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, vraiment, on est aujourd'hui, j'allais dire, dans une sorte de tradition picturale toute relative. On le voit déjà avec Gerhard Richter. Donc Richter, on lui doit, et là j'ai remis les tableaux dans l'ordre, ce tableau-ci qui s'appelle Chinon, hein, que vous avez donc vu en premier tout à l'heure. Le deuxième tableau, c'était celui-ci, qui date lui de 94, hein, qui représente effectivement une femme lisant. Et puis le dernier tableau, qui est lui beaucoup plus récent, est un tableau de 2015, hein, vraiment récent, qui donc représente rien. C'est-à-dire c'est un tableau abstrait du même artiste. Donc un artiste qui véritablement, au même moment, hein, parce que là je vous montre un tableau, j'ai voulu montrer un tableau tout à fait récent de Richter, mais au moment où il faisait des paysages comme Chinon que je vous ai montré tout à l'heure, ou cette femme lisant, Richter était également capable de faire des tableaux comme ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, en même temps, fait les choses les plus précises, photographiques, hyper réalistes, comme le paysage qu'on a vu, et les choses les plus abstraites, comme ce que vous voyez là. Donc vous voyez que c'est un artiste qui travaille dans les deux domaines. Hein. Et quand on lui demande pourquoi, bah, il dit que c'est comme ça. Voilà. En fait, son explication, c'est que c'est ça qui l'intéresse. C'est un type qui est obsédé par la peinture. Son problème, c'est la peinture, donc il fait de la peinture. Et pour la peinture, c'est pas abstrait ou pas abstrait, c'est pas gestuel ou pas gestuel, c'est pas hyper réaliste ou un peu moins, c'est pas... La peinture, c'est tout.
Mais donc, il a des périodes différentes ou il mélange toutes les,
périodes. Tout ça est simultané. Là, je vous ai montré des peintures de trois types différents et qui appartiennent à trois périodes différentes. Mais en fait, à la même période, il a toujours fait ces différents répertoires. Donc c'est un artiste vraiment éclectique dans sa cohérence, si j'ose dire. Hein. Parce que ça reste cohérent, c'est toujours une peinture très exigeante, hein, parce que j'allais dire qu'il y a une exigence d'abstraction aussi forte que l'exigence du réalisme qu'il peut avoir dans son hyper-réalisme. Deuxième peintre. On y va ? Bien. Alors, qu'est-ce que nous disent ces œuvres ? Là, alors, là, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est une œuvre très, très grande. Ça fait plusieurs mètres de long. Hein. Donc, parce qu'évidemment, à chaque fois, il n'y a pas les dimensions, mais ça, c'est une très, très grande chose. Hein.
Et haute ou pas ?
Ben, c'est assez haut. Hein. Ça doit faire quelque chose comme 5 mètres de long. Donc, vous voyez, ça fait 2 mètres de haut, quoi. Plus ou moins. Enfin,
oui. Une volonté d'aller du déshabillé à l'habillé en allant de la gauche vers la droite.
Oh non, au fond aussi.
Là, vous parlez de la représentation, donc au niveau de la représentation des personnages. Donc on aurait une sorte de panorama de personnages très habillés à droite et très dénudés à gauche.
Mais non,
voilà. Après la pluie, le beau temps, il y a des gens avec parapluie, d'autres pas à gauche. Oui, ou après le beau temps, la pluie, oui.
C'est très fin.
Très fin.
Il est très fin, oui.
Très fin, très délicat.
Très délicat.
Très délicat.
C'est une ville derrière, le paysage.
Oui, oui, il y a une espèce de ville avec des immeubles à l'arrière.
Et des palmiers. Donc,
il y a des palmiers.
Un peu exotique.
Ouais. Une dimension un peu exotique.
Cette jeune fille couchée avec sa bouée est un petit peu étonnante.
Où est-ce que vous voyez une jeune fille couchée avec une bouée? Ah, celle-là. Je ne l'avais même pas vue. Oui, oui, absolument. J'y voyais le rivage.
Des couleurs un peu pastel.
Des couleurs un peu
pastel.
Un peu pastel, il n'y a pas de couleur, à part la bouée peut-être, hein, pas de couleur violente, violente. On est effectivement dans quelque chose d'assez nuancé, oui.
Alors c'est une foule serrée.
Une foule serrée, effectivement, oui. Il y a une espèce de densité des figures.
C'est un peu morbide.
Un peu morbide ? Par quels sont les éléments qui vous...
Vous voyez cette... Alors déjà, cette femme... Je trouve qu'elle
s'est... Et puis l'opposition...
L'opposition... C'est le groupe de droite.
Oui.
Sombre, qui on ne sait pas trop ce que c'est...
Ah oui, donc un côté un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, à gauche, il y a des gens pas très habillés, à droite, ils le sont beaucoup. C'est sombre à droite, ça n'est pas à gauche. À gauche, on a l'impression d'être sur une sorte de plage, là, plutôt une décharge. Donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que c'est. C'est peut-être cette bizarrerie qui donne un côté un peu étrangement morbide à cette œuvre.
Puis cet homme qui s'en va avec ce parapluie.
Cet homme qui s'en va avec ce parapluie, qui est... dont on ne comprend pas très bien comme ce qu'il fait dans un lieu où on joue à la plage à l'autre côté. Hein. Sans doute. Très habillé. Ok, donc on est là dans une œuvre assez délicate, avec des couleurs, j'allais dire assez subtiles, une œuvre monumentale en même temps, une œuvre qui, par ailleurs, est assez ambiguë, dont on ne sait pas très bien si elle est gaie et triste, si elle se passe au bord d'une plage ou dans une décharge, si elle est gaie ou pas, si elle est morbide ou joyeuse.
Hein.
Une œuvre un peu entre deux choses. Pardon ?
On a l'impression qu'il manifeste.
Presque une manifestation, oui. Alors, effectivement, on ne sait pas très bien au centre, on a l'impression qu'il leur manque les pavés, hein, une manifestation, alors qu'à gauche, on aurait presque l'impression d'une foule sur une plage. Enfin, voilà, on ne sait pas en fait quel est le statut de ce que l'on voit. Hein. Le statut de l'image est un peu. Oui.
Il y a deux personnages, l'un à droite,
oui.
À droite, par lui, qui monte sur une passerelle.
Oui.
Et à gauche, complètement à gauche.
Oui.
Il y a un autre personnage,
oui.
Personnage qui est son pendant,
oui.
Et qui grimpe également après une sorte de passerelle.
Oui, oui, oui. Alors effectivement, il y a deux personnages qui calent la combinaison à droite et à gauche. D'ailleurs, cette idée-là de deux personnages à droite et à gauche qui calent la composition aux deux extrémités, ça vous fait penser à des choses peut-être ?
Moi,
Bah, ça fait penser à la peinture traditionnelle, si vous voulez, à la peinture ancienne, classique, si vous voulez. Voilà. Parce que finalement, depuis Raphaël, et sans doute bien avant, hein, quand on fait une peinture, on essaie de l'équilibrer. Alors on cale à droite, on cale à gauche, pas que la peinture, j'allais dire, que descende d'un côté à droite ou à gauche. Donc on a finalement quelque chose ici qui est, j'allais dire, assez assagi, très composé. Hein. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Il y a un côté, une sorte de subtilité, c'est assez peint. Alors après, la peinture, elle est... Hein. Mais voilà, tout ça est assez... On a l'impression d'une peinture qui s'est située un peu dans une sorte de grande tradition classique, hein, sauf que le sujet est bizarre, on ne comprend pas ce qui se passe, on a du mal à finalement caractériser la scène. Du même artiste, ceci, c'est quoi ? Salaud.
Dans un français.
Pardon ?
C'est un français.
Salaud est un mot un peu universel.
Francophone. Pas
francophone. Pas sûr.
Francophile.
Il y a des taches.
De sœurs.
Peut-être. Alors voilà, fleurs ou sang.
Il y a des fleurs, mais il y a jaune du sang.
Alors il y a des fleurs jaunes, ça c'est sûr.
Mais il y a du sang.
Mais il y a peut-être du sang, à moins que ce soit la peinture qui est bavée. Hein.
Ou un peu de pinceau à
l'encontre. Ben voilà, c'est tellement vite fait.
Tiens, mais c'est le bleu là.
Le bleu, c'est quoi ?
Une mer.
Le ciel. Mais la mer n'est peut-être pas loin.
Dans les lettres, toutes sont rouges sauf une noire.
Oui, il y a une lettre, effectivement, noir, bleu, foncé, effectivement. Oui. L'évocation d'une explosion, c'est cette explosion de rouge, peut-être, qui vous donne cette idée.
Parce qu'ils ont tué.
C'est une
scène de violence.
Ah oui,
de guerre. Une explosion et la guerre et...
Oui. Donc finalement, est-ce que cette œuvre suggère pour vous une dimension triste, violente,
de protestation,
terrible, vraiment une émotion négative, pourrait-on dire.
De protestation.
La couleur rose peut être la représentation d'un corps.
La couleur rose, à quel endroit ?
Tout autour.
Ah, le fond qui, d'ailleurs, vous avez remarqué, n'a pas été peint. C'est-à-dire que en bas, à gauche et en haut, en fait, c'est la toile elle-même, c'est pas peint. Oh, disons qu'il y a peut-être une couche de préparation. Vous voyez, effectivement, une petite couleur un petit peu rose, qui, c'est vrai, hein, qui, absolument. Mais ça n'a pas été au-delà.
Il me semble qu'il y a deux choses. Il y a la partie qui représente des herbes, parfois soigneusement, et puis franchement, on a l'impression d'un coup de pinceau rouge jeté avec colère sur la toile.
Voilà.
Est-ce que chaque tache rouge a été peinte minutieusement ?
Non. Non, c'est Stutz, il a dû prendre son pinceau et faire clac, et puis voilà, c'est tombé.
Donc,
ça a peut-être mis une seconde.
Oui. C'est une protestation contre les atteintes à l'environnement. Et oui, puis il y a Salaud.
Peut-être. Ben, peut-être, effectivement. C'est-à-dire que, finalement, si je vous entends bien, hein, on a là un tableau qui est un paysage, hein, qui représente un morceau de nature. Il y a des fleurs, il y a de l'herbe. Tout n'a pas été peint. Mais enfin, c'est une fraction de paysage. Il y a des fleurs jaunes, notamment. Un côté champêtre. C'est sympathique. On est au bord de la mer, peut-être. On se croirait peut-être sur une dune enherbée, que sais-je. Puis en même temps, il y a qui vient se fracasser contre cette sympathique image de quelques bords maritimes. On a ces taches de sang, peut-être, en tout cas de peinture rouge, qui ont été jetées là. C'est-à-dire l'inverse de la manière dont le reste du tableau a été fait. Hein. Et en plus, le mot salaud, toujours en rouge, hein, qui vient barrer le ciel. Hein.
Et au
pluriel. Hein.
Tableau écolo.
Oui, en tout cas, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on voit là un statut équivalent de ce qu'on a vu dans l'œuvre précédente, qui est du même artiste, hein, c'est-à-dire cette espèce d'ambiguïté entre l'un et l'autre. À vrai dire, on ne sait pas très bien ce que c'est, vers quoi cette œuvre va. Hein. Est-ce que c'est une sorte de joli paysage qui a été un peu salopé, enfin, je ne sais pas qui. Donc un paysage sympathique, une sorte de vision agreste, pastorale, que sais-je encore. Ou est-ce que c'est au contraire une vision négative, sanguinolente, etc. Un peu comme le tableau précédent, c'est l'un ou l'autre, les deux, en fait, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on est là dans un statut d'œuvre qui pose assez question. Ce n'est pas gai, ce n'est pas triste, c'est peut-être violent, mais peut-être pas. Finalement, on est là dans une sorte d'entre-deux, un peu comme l'œuvre précédente. Vous êtes OK avec ça?
Oui, est-ce que le titre nous renseignera sur
est-ce que
le titre du
Je crois pas. Non, le titre, c'est salaud.
Ah, d'accord.
Donc, ça n'ira pas, pas tellement plus loin. Et puis ça, toujours du même artiste.
C'est pas une actrice?
En fait, non, c'est pas une actrice. Enfin, non, pas que je sache.
Elle ressemble.
Oh, oui.
Il y a beaucoup de rouge à nouveau.
Du rouge, ouais. C'est une photo coloriée, absolument. C'est-à-dire que là, on n'est pas devant une peinture traditionnelle, hein. On est devant une photo qui a été coloriée ou colorisée, effectivement. Hein. Très juste.
C'est le même cas que
le Dalí. Ouais. Vous le connaissez?
Je crois
aussi. Je crois que vous avez dit son nom tout à l'heure. C'est lui. Et donc, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça, par rapport aux autres œuvres précédentes? Très différent, aucun rapport. D'ailleurs, chronologiquement, vous situeriez ça comment, ces trois œuvres, les unes par rapport aux autres? Celle-là au début, donc les deux autres après. Et parmi les deux autres, vous mettriez Salaud avant ou après le truc tout en longueur, là? Avant, après, bon. Donc pour certains, Salaud est en dernier, pour d'autres, Salaud est en deuxième. Et là, vous voyez donc une œuvre qui est plutôt au début de la chronologie de ce peintre. Cette œuvre, si vous vouliez la caractériser rapidement, hein, nos 10 minutes sont presque passées, vous diriez quoi?
Elle fait penser à Andy Warhol.
Comme... fait penser à Andy Warhol. Et Andy Warhol fait partie de quel... pop art. Donc on aurait là une œuvre pop artiste. Bien. Alors, on va essayer de voir. Alors, sexe du peintre qui a réalisé ça?
Masculin.
Peintre et masculin et féminin. Donc, si je dis du peintre, ça veut dire une femme. Tiens, lire au passage. Hein. Je dirais pas de la peintre. En tout cas, pas ce soir. Hein. Donc, masculin. Une idée de la génération du peintre en question?
Jeune.
Donc, quelqu'un qui a une quarantaine?
En plus,
une trentaine?
Plus, parce que là, c'est plutôt années 60.
C'est facile, la photo.
Ah oui, il a plutôt 80 ans.
La photo est des années 60.
Bah oui, les années 60.
Donc, on a quelqu'un qui faisait déjà ce genre de choses dans les années 60.
Donc, il a plutôt 80.
Donc, c'est plutôt quelqu'un d'un petit peu plus âgé que ce que vous pensiez.
Ah oui.
Donc, plutôt autour de 70, peut-être?
En plus.
Plus, 80?
Ah oui.
OK. Et une idée de sa nationalité?
Américain.
Américain. Italien.
Non.
Andy Warhol serait de ce monde, ça pourrait être lui, mais c'est pas lui, parce qu'il est plus là. Bon, alors, l'artiste qui a fait ces trois œuvres-là est un artiste, tout ce qu'il y a de plus français. Il s'appelle Martial Reiss.
La date est bonne.
Né en 36. Hein, voilà. Alors, vous avez bien vu hein, l'organisation... de l'œuvre de l'artiste, effectivement, cette œuvre-là, qui est en fait le portrait de sa femme, qui, je crois, n'était pas actrice. Hein. Il l'a appelé le portrait de Madame Reiss Martial. On est dans le portrait jusqu'au bout. Hein. Et donc, une œuvre de 63, par parenthèse, ça, on ne le dit jamais, les Américains, surtout, ne le disent jamais. Hein. Martial Reiss est un artiste antérieur à Andy Warhol. Hein. Ça, les Américains ne vous le diront pas. Hein. Ils n'ont pas intérêt, ça déprécierait leurs œuvres. Hein. Mais ça, et les Français ne le savent pas, les Français ne connaissent pas le rare, c'est normal. Hein. Martial Reiss est le premier à avoir travaillé ce genre de choses de cette manière, le premier à avoir mis des néons dans ce genre d'œuvre, etc. Hein. Après, il est allé aux États-Unis, et là, il a rencontré Warhol, etc. Mais ça, on ne le sait pas. Martial Reiss est vraiment quelqu'un qui a totalement innové dans ce genre de domaine. Là, il y a eu une exposition au Musée national d'art moderne il y a 2 ou 3 ans sur lui qui montrait très clairement ça. C'est-à-dire, historiquement, Reiss est vraiment quelqu'un qui a inventé ça. Hein, voilà, hein. Donc, c'est important de le dire parce que une chose qu'on entend finalement peu. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet artiste, absolument avant-gardiste dans les années 60, et il faisait ça, tu veux dire que ça en France dans les années 60, on n'est pas en 68, on est en 63. Hein. Ça faisait du bruit dans le Landerneau, je peux vous le dire. Hein. Martial Reiss, dans les années 60, on pourrait complètement taper. Hein. C'est pas du tout bien reçu en France. Hein. Donc c'est un artiste absolument hyper avant-gardiste. Et ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est qu'il a fait exactement l'inverse des artistes avant-gardistes. Les artistes avant-gardistes sont allés à partir des années 60-70 vers l'avant-garde. Et lui, alors que les gens, j'allais dire, le suivaient, allaient vers l'avant-garde, lui est revenu vers la peinture traditionnelle. Il a fait exactement le chemin inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Reiss, après être passé par ce genre d'œuvre, Donc vous avez bien noté le statut un peu étrange et bizarre. En fait, on avait du mal à son utilisateur à dire clairement ce qu'il en était. Il a encore continué jusqu'à nos jours, hein, puisque la grande œuvre que je vous ai montrée là date de 2012, hein, pour faire des œuvres qui sont une espèce de grande peinture tout à fait traditionnelle, hein, une peinture finalement, alors bien sûr c'est pas un Raphaël, hein, mais une peinture qui, par la manière de peindre, par le fait qu'il y a un sujet, que ça représente quelque chose, donc on a vu qu'il y avait quand même des idées, des cadrages, enfin, il y a du traditionnel là-dedans, hein. Donc c'est quelqu'un qui a fait exactement le chemin inverse des avant-gardistes. Au lieu de partir de choses comme ça pour aller vers la super avant-garde, il est parti de la super avant-garde pour aller finalement vers quelque chose de plus traditionnel. Mais le fait de faire ça qui est traditionnel fait que c'est super avant-gardiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a plus personne pour peindre comme ça aujourd'hui. Ça ne se fait pas, si vous voulez. Hein. Si on est avant-gardiste, on ne peint de la peinture comme Raphaël. Enfin, je ne dis pas que c'est comme Raphaël. Hein. Mais oui, on ne fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est là chez un artiste très peu connu en France. Très très peu connu en France. Mais qui est considéré au niveau mondial comme un artiste tout à fait passionnant et qui, sur bien des points, a été un avant-gardiste et un inventeur. Mais nous arrivons au troisième artiste. Alors, qui a fait succès. Ah oui.
Oh, bon, quand même, c'est la provoque.
Et là, c'est pas moi qui provoque. Hein.
Ah non.
C'est lui.
Il marche la tête en bas.
Oui. Ils sont de l'autre côté de leur corps. Si c'est à moitié de corps.
Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ces trois œuvres? On commence par celle-ci.
Mais il y a déjà un point commun, c'est qu'il met la tête en bas.
Ah, il y a deux œuvres où, en effet, les personnages sont la tête en bas. Il y a un point commun entre la première et la dernière.
Il est moins éclectique que les deux premiers.
C'est-à-dire que, bon, avec les premiers, on a là quelque chose de très très proche, finalement, hein, ok. Pas dans les couleurs, mais en tout cas dans le, oui, dans le sujet, la manière de faire, peut-être.
Visuellement, ça fait penser au gris.
Au gris, donc une peinture un peu monkienne, hein, parce que vous savez que Munch, ça se prononce monk, ou munk. Donc, on serait près de... Vous avez d'ailleurs raison, parce que cet artiste, mais ça se comprend, hein, trop évidemment que Munch est un très très grand peintre, et donc il en est assez proche. Munch, comme d'autres artistes, appartient à quel courant pictural ancien, moderne? Voilà, l'expressionnisme. Hein. Donc, on aurait là une œuvre expressionniste, plus tardive, mais l'œuvre expressionniste. Hein. Ok. On regarde peut-être la deuxième. Donc du même artiste. Hein. De la même artiste. Mais encore une fois, j'emploie le masculin pour tout le monde parce que c'est plus simple. Alors qu'est-ce qu'on voit là?
C'est le corps,
un corps coupé en deux. Alors là il n'est pas retourné, il n'a pas la tête en bas, mais effectivement, il y a toujours un travail avec le corps un peu bizarre.
Coupé et déplacé. Hein.
Coupé et déplacé. Hein. Il y a deux. La façon d'une photo qui a été coupée et déplacée, effectivement.
Une femme qui regarde au premier plan.
C'est ça, votre femme qui regarde au premier plan?
Non, je le prends.
À quel endroit vous voyez une femme qui regarde?
Mais là,
c'est ce que vous avez montré.
Ah, ça? Oui, peut-être. J'avoue que je ne sais pas.
Mais qu'est-ce que c'est? Le personnage avec croix?
Je ne sais pas du tout non plus. Il y a quelque chose, on a l'impression de personnage, on sait pas trop ce qui se passe là.
Il y a une croix quand même.
Oui, il y a une croix. Un côté dessin d'enfant.
Puis un homme ou une femme? Parce
qu'au niveau, eh ben, je sais pas.
Au niveau des organes génitaux, c'est très ambigu.
Ben oui. Oui. Donc un personnage, on dirait. Hein.
Musclé.
Une tête.
Tête d'âne entre la tête marron du bas et puis les organes génitaux. Il y a quelque chose.
Ah bon, ben, je crois que c'est le pantalon du personnage.
Voilà.
Mais effectivement, c'est un peu spécial. C'est un peu. Bon, donc, une figure décalée, on voit décidément que ce personnage, ce peintre, hein, cet artiste, il joue avec les corps, il les met tête en bas, ou il les coupe et il les décale, hein, une sorte de jeu avec le corps, ouais. Et puis la troisième œuvre.
C'est affreux, c'est morbide.
Morbide.
Il est
maigre.
Sur l'eau, sur la glace.
Quelqu'un qui marche sur l'eau, sur la glace, squelettique.
Ouais.
fantomatique, une sorte de spectre.
Mais c'est assez beau.
En fait, il joue avec les corps.
Nébuleux. Oui, un travail vraiment sur le corps. Alors,
sur les trois, on voit qu'il y a un travail sur les corps, qui n'est pas orthodoxe, certes, mais quand même pour donner plus de force à ces tableaux.
Donc, vraiment, un artiste s'intéresse au corps humain, qu'il met la tête en bas, qu'il coupe en morceaux, etc. Enfin, il le tord. Vraiment, un artiste s'intéresse à ça. Alors, là aussi, même question, quel sexe, quelle génération, quel pays ?
Allemand.
Homme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, d'ailleurs ? La glace, le fait qu'il y a de la glace, il y en a sur la zone aujourd'hui. Hein.
Non, mais le côté un peu morbide.
T'es morbide ? Oui. Les Allemands sont morbides, Madame Merkel ne sera pas contente.
Non,
le côté expressionniste, hein, je vous disais tout à l'heure, hein, donc une émotion expressionniste qui se rapproche de l'Allemagne. Hein.
De l'Est.
Pardon ? Allemagne de l'Est plutôt. Par parenthèse, Richter, qu'on a vu tout à l'heure, est un Allemand de l'Est. Hein.
Ah oui.
Ok. Et quelle génération ça ?
Peut-être un peu plus jeune.
Un peu plus jeune ?
Plus jeune.
Donc là, pour le coup, la 40, je veux la caser, ma 40. Hein,
bon, allez, c'est la 50.
Allez, la 40. Ah, la 50. Alors, voyons un peu ce qu'il en est. On est devant, effectivement, un artiste allemand, baséliste. Hein. Vous le connaissez sans doute. Hein, c'est avec Richter, un artiste vraiment très célèbre. Et qui continue de l'être. Hein. C'est un artiste qui, comme Richter, hein, tient le haut du pavé pictural depuis longtemps. Hein. Ce sont des artistes dont on parlait déjà beaucoup il y a 20-30 ans. Hein. Et effectivement, c'est un artiste de l'Allemagne de l'Est. Hein. C'est assez amusant de voir que Richter et Basilis ont eu en gros le même cursus. Hein. C'est des gens qui étaient à l'Est, qui sont entrés à l'école des Beaux-Arts de Berlin avant la destruction du mur. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'enseignement de l'école des Beaux-Arts de Berlin-Est avant la chute du mur ne correspondait pas tout à fait à leurs attentes. Donc l'un et l'autre se sont tirés, pour être clair, mais on ne leur a pas tiré dessus. Ils sont allés à l'Ouest et ils ont pu évidemment travailler dans de toutes autres conditions. Inutile de vous dire que leur art en Allemagne de l'Est n'était tout simplement pas envisageable. Donc on a des artistes, effectivement. Alors vous avez bien senti la veine expressionniste. Hein. Voilà donc en fait le tableau du départ. MMM, Angers et A, je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire. Il y a sûrement une raison, j'ai pas creusé, mais voilà. Donc ça, c'est un tableau des années 60, hein, on est donc assez tôt. Ensuite, on a ce genre de pièces. Basilis, il a comme ça sa marque de fabrique, c'est les personnages à tête à l'envers. Parce qu'une manière vraiment de voir, c'est de se dire, mais finalement, dès qu'on pense à un personnage normalement à tête à un endroit, j'allais dire, bah, on se pose aucune question, parce qu'il est à tête à un endroit, donc finalement, on ne regarde plus rien. Soit on ne regarde pas. De pas, vous savez comment on est. Hein. On est là dans la vie quotidienne, on voit des trucs, on ne les regarde pas. Hein. On passe à côté, on ne s'interroge pas une seconde dessus. Alors, en mettant la tête en fait, c'est une manière justement de nous obliger à réagir et à regarder. Là, on regarde parce que c'est étrange, bizarre, et qu'on découvre des choses qu'on ne verrait pas si c'était normal. C'est dans le sens inverse, on ferait comme d'habitude, on passerait devant. Hein. Parce qu'on passe tous devant des milliers de fois par jour, qu'avant dans les musées, les gens regardent plus les cartels que les œuvres. Hein. Et bien là, justement, il l'oblige à faire l'inverse. Hein. Il l'oblige à. Il nous choque. Alors, on regarde parce que c'est bizarre. Voilà. Et en même temps, c'est très expressionniste, vous l'avez vu, très manquien. Hein. Et voilà une œuvre beaucoup plus récente, hein. Donc un peu dans la même veine, mais en même temps très différente. On est là, vous l'avez bien senti, dans du diaphane, du quasi-spectral. Hein. Oui, un côté apesanteur, effectivement. Alors, je sais pas ce que, moi, je ne suis pas germanophone, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais effectivement, hein, vous avez raison, on est quand même dans quelque chose d'une sorte de légèreté.
Aller hein. Marcher, aller
cheminer
et partir.
Voilà. Ben, le chantier. Bon. Quatrième artiste. Alors, quatrième artiste, je vous montre les œuvres en question. Première œuvre. Deuxième œuvre. Troisième œuvre.
Déguisement.
Alors, les trois œuvres de cet artiste, ça d'abord, alors même chose, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus?
Une sorte de danseuse.
Une sorte de danseuse. Une sorte de danseuse spéciale.
On dirait
un revenant encore. un revenant. Là aussi, une dimension un peu spectrale. On dirait un lapin.
Un lapin
avec une lapine, si oui. C'est une danse.
Oui, mais le il y a un visage humain.
Un visage humain, un lapin, une lapine à visage humain, une sorte de danseuse lapine à visage humain. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'humain dans cette lapine-là ? La robe. Cherche une robe, d'ailleurs.
Non.
Espèce de juste au corps, oui. Hein ?
Elle n'a pas une cigarette dans la main droite.
Oui. Ce serait bien possible, mais on a du mal à voir.
Et qu'est-ce que c'est, la chose noire ?
Eh bien, c'est son juste au corps, c'est son
vêtement. Ah, ça y est, je la vois.
Elle porte des bottes.
Elle est habillée de cette espèce de juste au corps. Dans finalement, cette lapine que vous voyez là.
Elle a des bottes aussi.
Elle vous fait penser à. Elle vous fait penser à quoi par rapport au monde d'aujourd'hui ? Pardon ? À Betty Boop ?
Non.
Oui, une sorte de héros de bande dessinée, quelque part ?
Alice,
au pays. Je ne sais pas.
Alice.
Alors, c'est plutôt un lièvre, le lièvre Alice, de Mars, dans Alice au pays des merveilles, mais c'est vrai qu'on peut penser à ça. Hein. Au lièvre de Mars qui est toujours en retard. Vous savez, qui est à son. Oh, je suis très en retard. Effectivement, hein, on pense un peu à ça. Il y a une sorte de monde de l'enfance. Une bande de l'enfance un peu curieux. Hein. Alice au BNURS, c'est à la fois très enfantin et très adulte. Hein. C'est un mythe très, très étrange. Donc les enfants peuvent y trouver quelque chose, mais les adultes aussi. Il n'y a pas la même chose. Hein. Donc effectivement, on est là devant une créature mignonne, sympathique, hein. Un petit pimpin. C'est quand même mignon, les pimpins. On en a tous dans nos berceaux quand on était petits. Hein. Puis en même temps, ce pimpin-là ou cette pimpine-là, elle est un peu bizarre. Hein.
Un côté danseuse de cabaret.
Un côté danseuse de cabaret. Donc c'est un lapin mignon, charmant, enfantin qui a les atouts d'une danseuse de cabaret.
Des jambières un peu.
L'espèce de jambière. Et elle a juste au corps un peu bizarre. Vous avez parlé de bande dessinée, de Betty Boop, mais elle a presque un côté Batman au féminin, si vous voulez. Un côté, vous savez, héros des BD américaines des années 30, où il y a. Forcément des types qui s'élancent d'immeubles de 50 000 étages pour voler dans les airs. Enfin, il y a un côté Spider-Man, de Batman, etc. Ouais.
Il y a une certaine tristesse
dans
les yeux.
Et une sorte de tristesse, oui.
Ouais.
Un côté héros fatigué.
Les yeux et la bouche.
Et son bras gauche.
Et c'est pas comment d'ailleurs tout ça.
En
grisaille. Gris, oui. Et au niveau de la touche, vous diriez ça comment ? Oui, c'est pas net, c'est passé, c'est lâche. Hein, on n'est pas dans un travail très précis. Hein. Autre œuvre, toujours de ce même artiste. Alors là, rigide. Ça se ressemble en plus rigide, c'est ça ? Un peu spectacle. D'ailleurs, ça, c'est beaucoup plus grand. Hein. Là, vous avez une peinture qui fait. À peu près comme d'ailleurs l'œuvre de Marcel Reiss tout à l'heure. Hein. Ça doit faire 5 mètres de long, ça, à peu près. Hein. C'est grand. Hein.
Voilà. Mais c'est un cirque.
Et effectivement, il y a un côté spectacle. Hein.
Cirque, non ?
C'est un côté cirque.
Parce qu'il y a presque un costume de dompteur.
Presque un costume de dompteur.
Et puis un personnage à
l'envers.
Oui. Oui, un personnage acrobate au premier plan.
Oui,
est-ce que donc un genre de cirque, c'est un cirque, c'est certainement
et puis
un cirque.
Ça
fait penser à
une danse macabre moderne.
Une sorte de danse macabre moderne, donc un cirque mais un peu triste, une danse mais macabre.
Il y a au centre, c'est différent. Voilà.
C'est... Au centre, c'est différent. Il y a une sorte de porte qui donne sur quelque chose avec. Ouais, une sorte de danseuse peut-être.
Il n'y a plus le fond jaune.
On dirait que quelqu'un est allongé.
Un fond jaune. On dirait que.
Une personne est allongée ou mort ou dort.
Ici, là.
Le bras qui retombe.
Oui, oui, on a un personnage qui a l'air de dormir. On voit sa tête, son bras qui pend.
Un animal sur lui.
Et peut-être un animal dessus, genre un chien.
Puis à droite, un jeune homme qui revient des toilettes.
Un jeune homme qui revient des toilettes. Oui, il est tout nu, oui. Peut-être ça, effectivement. Donc on est là devant une sorte de cirque, une sorte de parade, enfin pas très clair non plus, on ne peut pas trop affirmer d'ailleurs, cette espèce de devanture de magasin n'a pas l'air d'un cirque, mais en même temps ça ressemble à un cirque. Oui. Si ça ressemble à un cirque.
Quand on faisait la parade devant
le cirque.
Le rideau.
Voilà, le rideau, oui, donc ça peut. Ben, allons-y pour le cirque. Hein. Mais un cirque un peu bizarre, un peu triste, un peu entre deux. Alors on s'amuse, mais enfin en même temps, bon. Il y en a un qui a l'air de sortir des toilettes quand on amène l'autre sur un brancard. Voilà.
Toutes les têtes. Il y a encore des.
Ouais.
Le corps à droite.
Ouais. Pardon, rien.
Un personnage à juste au corps encore.
Oui, à droite, effectivement, un personnage. Bah oui, juste au corps qu'on a vu avec la fine de tout à l'heure. Hein.
Et qu'est-ce qui tient
Je verrai un jugement
dernier. Une sorte de jugement dernier.
Ah, c'est
fou. Donc on est entre la parade et le jugement dernier.
Oui, de mort, presque.
Quasi, hein. Bien. Et alors ça.
Ça, c'est plus classique.
Un arlequin coupé. Quand vous dites plus classique et plus arlequin, je ne sais pas si ça suggère quoi chez vous. Pardon.
Le costume du chaboté.
Le costume du chaboté, ouais. Donc ça vous ramène à quelle période, quoi? La Renaissance.
Le
17e.
Le
17e.
17-18.
17-18e. Un côté espagnol. Hein. Et au 18e siècle, on aime beaucoup ce genre de figure un peu espagnole. Ok. Donc on a là... qu'est-ce qui d'ailleurs pourrait rapprocher cette œuvre-là des deux précédentes?
Ça fait cirque
encore. Toujours cirque. On a là finalement des figures, des personnages qui semblent appartenir... Pardon? Voilà, on est dans une sorte de comédie dell'arte. Comédie dell'arte, c'est drôle, c'est triste, on rigole, on pleure, voilà. On est une sorte de comédie dell'arte moderne. On a dit même d'une danse macabre moderne tout à l'heure. On a été jusqu'à pas être jugement dernier. Hein. Donc on est dans finalement une sorte de thématique, de vocabulaire classique, ancien, qui prend ses racines dans la Renaissance, dans le Moyen-Âge, qui nous parle du 17 du 18e siècle. On a des arlequins, tout ça est festif, mais une fête un peu touchée, quelque part. Hein. Très bien. Alors, même combat, cet artiste jeune ou moins jeune, de quelle nationalité, de quel sexe, dans quel ordre vous voulez voir ses œuvres, à vous de jouer.
Italien.
Espagnol.
Italien, espagnol, enfin quelqu'un du sud de l'Europe. Hein.
Sud.
Ok. Quelle génération? Et quel sexe?
Homme.
Masculin. Quelle génération alors? 40 ans?
Non.
Pas 40 ans.
Ils ont tous le même âge.
Ils ont tous le même âge. Hein, ils ont tous... Bon, allez, on dit quoi? 70, quelque chose comme ça? 80?
Ils avaient tous 80.
80 moins. Oui, ils avaient tous 80. Ah ben.
Allez, 60.
Allez, 60. Tout jeune. Hein. Donc, un jeune artiste, plutôt italien ou espagnol, hein, de 60 ans. Ah. Alors, voyons un peu de quoi il s'agit. Alors, en fait, l'artiste dont je vous ai présenté les œuvres, d'abord, est une femme. Elle s'appelle Valérie Favre. Elle n'est ni espagnole ni italienne, elle est suisse. Hein. Elle est née en 1959, ce qui vous dit grosso modo la génération qui est la sienne. Hein. Valérie Favre. Et vous avez bien caractérisé hein, le travail de cet artiste. Hein. Je trouve que vous avez vraiment bien résumé. D'ailleurs, le premier tableau, si on les met dans la chronologie, le plus ancien parmi les trois, à votre avis, c'est lequel? Celui qu'on a vu le dernier. Bravo. C'est ça. Hein. Qui s'appelle l'embarquement pour Sylvia d'après Vapou. En fait, voilà, vous avez parlé, vous avez bien vu, hein, de 17e, 18e, d'Arlequin, de Comédie d'Arte. Vous étiez bien dans le truc. Et qu'en fait, elle reprend en charge, si vous voulez, tout ce vocabulaire délicieux, etc., du 18e, voilà, notamment Vatou, qui est un peintre qu'elle admire beaucoup. Et elle, évidemment, elle reprend, elle réintègre, elle revoit. Hein. Et elle s'est créée comme ça toute une sorte de vocabulaire avec des figures. Donc elle a fait toute une série, par exemple, de ces figures d'après Watteau, hein, mais elle a fait également toute une série de lapins et de lapines, hein, notamment celle-là. Mais il y en a des quantités. Hein. Elle se crée une espèce d'univers, une espèce de cycle. Alors ce cycle de lapine, mais qui est une sorte de lapine univers, mais qui effectivement renvoie à ces mythes modernes que ne sont plus l'embarquement pour Cythère, hein, mais ces personnages de BD qui, depuis plus d'un siècle, peuple notre imaginaire, hein, et dont on est, qu'on le veuille ou non, totalement imprégné. Hein. Et puis la dernière œuvre, la plus récente, 2008, c'est une pièce que vous voyez là. Hein, voilà. Service for the Queen, ça je ne peux pas vous dire. Mais voilà, donc on est. Mais effectivement, on est dans une sorte de carnaval un peu triste, mais qui en est un quand même, hein, de parade. Ça fait partie de son univers festif et un peu éteint à la fois, hein, un peu spectralo-drôle. d'une danse macabre plaisante. Mais nous allons vers le cinquième. Ah, et voici.
Ah, Mara.
Ah,
Mara.
De qui? L'original est de qui? David, de Jacques-Louis David. Hein. Donc on a là la reprise d'un tableau de Jacques-Louis David.
C'est un bon. Mara.
Oh, c'est pas le peintre Chelon là. Il expose à Dijon.
C'est un noir qui est
c'est, mais si,
couvert
c'est
de rouge.
Ah ben moi je sais pas.
Oui. Ah, Mao.
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 C'est tout.
Alors.
C'est pas lui. Il n'a pas d'étoile à Dijon.
Peut-être.
Et peut-être même plus près.
Chalon. Un artiste qui a l'étoile à Dijon, à Chalon.
À
Niepce,
au musée.
Une expo, oui,
elle,
à quel endroit?
Elle est terminée, au musée de la photo.
Actuellement
musée
Niepce. Elle doit se terminer si elle n'est pas terminée.
Elle est terminée, je crois. Terminée.
Alors, cet artiste.
Non, mais c'est lui ou pas?
Ah, ben, je ne sais pas.
On dirait, hein. C'est...
Alors, si c'est cet artiste, ça s'appelle comment?
Painting.
Donc, des œuvres de Painting. Alors, essayons de caractériser un peu l'œuvre de cet artiste. D'abord, là, vous voyez quoi? Voilà, vous l'avez déjà dit. Un triptyque avec quoi? Ben, trois fois la mort de Marat de Jacques-Louis David, réinterprétée par l'artiste. Ok. À votre avis, le but, l'idée, c'est quoi?
De travailler sur la couleur.
De travailler sur la couleur. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre idée derrière tout ça?
Ce sont des photos.
Ce ne sont pas des photos, c'est vraiment de la peinture.
C'est vraiment de la peinture.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec la photographie.
Oui.
Et au musée Niepce,
il y a à partir des photos.
Et voilà. Donc, on a là un artiste titillé par la photo. Et pourquoi trois fois la mort de Marat?
Parce qu'il y a malgré tout des différences.
Il y a des différences.
Le fond
de polychromie, effectivement, ou de monochromie.
Et puis le dernier, beaucoup plus.
C'est la décomposition. Ouais. Donc finalement, c'est un peu comme si le même sujet, vu de manière un peu différente, il n'y a que la couleur qui change, devenait autre chose. C'est pareil et c'est différent.
Il y a un summum de l'émotion et puis ça retombe.
Voilà, donc on a quelque chose de rouge, alors ça donne une certaine émotion, alors que le gris ou le noir proposerait dans notre émotion un regard un peu différent. Donc, accumulation, mais accumulation avec des petites différences, enfin des grosses, rouges ou noires ou gris, qui provoquent des sensations différentes. Et ça?
C'est un noir.
C'est comme
un noir. Un noir.
Non, pas comme lui.
C'est Léopold de Ségédard Senghor. Ou Fouet de Boigny.
Je pense pas que ça soit sang,
mais recouvert de sang.
Donc il y a un côté sanguinolent, comme si c'était peint du sang.
Oui, peut-être parce ça, que c'est peut-être parce que c'est quelqu'un.
Ça choque. Ça impressionne effectivement, oui.
C'est peut-être quelqu'un qui a demandé des massacres.
Pardon, rouge qui évoque l'idée de massacre.
Oui.
Ça coule. Ok.
Violence,
injustice.
Bon, bah Mao, c'est sûr.
Mao.
Mais l'autre?
L'autre.
C'est aussi un personnage historique?
Ah, oh, tout le monde est un personnage historique, mais il est moins historique que Mao, effectivement. Pardon? Allende à gauche? Non. Mais ça ressemble un peu.
Il y a une opposition entre la netteté de Mao et le flou de l'autre personnage.
Alors, une sorte d'opposition, netteté-flou. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition? Elle est que
victime.
Dans le net et le flou?
C'est une victime de Mao.
Alors, voilà, on pourrait voir d'un côté, effectivement, la victime et le bourreau. Quoi, hein.
Oui.
S'il a les yeux fermés.
Il a les yeux fermés, effectivement, à gauche.
Mao,
ce qui n'est pas tout à fait le cas de Mao, hein, qui est sûr de lui et de lui.
Hein,
c'est Mao. La défaite et la victoire.
Et puis l'amertume de
la bouche fermée.
Oui, l'amertume du personnage de gauche, hein, qui a l'air quand même un peu...
Bah, on le fait taire, on ne le fait pas parler, sa bouche est comme...
Oui, la bouche est vraiment close. Hein. Alors, vous allez... Oui, pardon.
Il y a un point commun, c'est ces coups de pinceau.
Oui. Ah oui. Ouais. coup de pinceau, on n'est pas dans une peinture très chiadée, comme on dit. Hein. On est là dans des coups de brosse. Hein. Tout ça est très grand. Hein. Ce que vous voyez là fait 2 mètres de haut. Hein. Voilà. Ce n'est pas des petits tableaux. Voilà. Effectivement, l'artiste qui fait ça donne dans le grand. Hein. Voilà. Donc un artiste hein, qui n'hésite pas. Alors, vous avez remarqué aussi que c'est un diptyque. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien travailler des tableaux seuls, mais quelquefois aussi des diptyques, des triptyques, des œuvres qui vont ensemble. Hein. Alors vous allez me dire quelle est la génération de ce personnage, quel est son sexe, hein, quel est son pays. Tout ça, vous allez me le dire.
Il a été hébergé en France.
Hébergé en France.
Oui.
Donc, hébergé en France, c'est-à-dire qu'il n'est pas français. En résidence.
À Dijon.
Donc il est de quelle nationalité?
Chinois.
Un Chinois en résidence en France, c'est ça? D'accord. Génération. 40 ans ?
Non,
plus que 40 ans.
70.
Allez, ok, 70 ans. D'accord, bien.
Mais c'est pas ça du tout.
Alors, on relève les copies. Hein. Vous n'avez pas tout à fait tort et pas tout à fait raison. Alors, effectivement, vous avez reconnu cet artiste, mais bon, effectivement. Hein,
mais là, il était jeune.
Oui. Mais il a toujours l'air jeune, Ming. Moi, j'ai bien connu quand j'étais en fac autrefois. Hein, parce que Ming, qui est un artiste français, hein, il est naturalisé français. Hein, il est naturalisé français. Alors, il est d'origine chinoise, il est né à Shanghai. Il est parti de Chine et puis il est en France. Et la France, de temps en temps, c'est généreuse et de naturaliser des gens. Hein, ça lui arrive, c'est rare. Hein. Mais elle fait bien de le faire. On a là un artiste plus célèbre au monde. Voilà. Hein. Eh bien, quand on sait naturaliser des gens, il vous rend. Et voilà un artiste qui est parmi les plus célèbres du monde aujourd'hui. Hein. Paye, vous en parlez à Pékin, bien sûr. Vous en parlez à New York, on connaît. Hein. C'est un artiste ultra célèbre qui habite à Dijon, à deux pas d'ici. Hein. Voilà. Il y a des œuvres au musée de Dijon, vous en avez vu au musée de Chalon. Hein. C'est un artiste ultra célèbre aujourd'hui, qui d'ailleurs n'est pas pour autant un artiste très, très abordable. Hein. Moi, je l'ai connu en fac. Voilà, à l'époque, personne ne le connaissait. Hein. Voilà, c'est un artiste il est considéré aujourd'hui, dans le domaine de la peinture contemporaine, comme un des premiers artistes importants. L'avoir à Chalon n'était pas un petit événement. C'était très, très important. Enfin, il fallait absolument voir l'expo. Donc, vous avez là Yan Minpei, ou Yan Peiming, on peut le dire ça dans différents sens. Un artiste né en 60. Hein. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est son père. Donc, ce n'est pas un homme noir, c'est un homme plutôt extrême oriental. C'est son père. Hein. Il représente très volontiers des gens de sa famille. Il se représente souvent lui-même. D'ailleurs, là, dans ce diptyque... Il appelle l'oncle, mais en fait, c'est son père aussi. Hein, et qui, en plus, est aveugle.
D'où les yeux.
Donc, vous avez à gauche, voilà. Donc, vous avez à gauche, effectivement, son père, mais qu'il appelle l'oncle, et Mao. Mais vous avez bien vu hein, qu'il y a l'oppresseur, l'oppressé, celui qui domine, celui qui est dominé, etc. Hein. Vous avez bien vu. Vous avez bien remarqué également la touche. Hein, c'est un peintre, Ming. Hein. C'est vraiment un type qui va avec son pinceau. Et puis, il y a de l'épaisseur. Et puis, il a des gros pinceaux pour peindre. Enfin, il n'y va pas par quatre chemins. Hein, c'est un Chinois. Voilà. Boum, on y va. Hein. Donc, ça y va. Hein. Et donc, il y a le triptyque Mara, parce que c'est un type, en même temps, qui s'intéresse beaucoup à l'art ancien, hein, qui connaît très bien la peinture française, par exemple. Hein. Après tout, il l'a beaucoup étudié. Voilà, et donc, il reprend, mais il s'intéresse beaucoup aux arts extrêmement orientaux aussi. Donc, c'est quelqu'un qui intègre l'art, j'allais dire, ancien dans ses œuvres, on voit ici. Et il s'intéresse beaucoup aussi au monde d'aujourd'hui, aux célébrités d'aujourd'hui. Il a fait un portrait de Barack Obama, par exemple. Le prince Charles d'Angleterre lui a commandé son portrait. Hein. Ah. Et avec son royal britannique, le portrait du prince Charles par Ming, hein, par exemple. Hein.
Ah. Plus on va de la gauche vers la droite, moins c'est possible.
Oui, parce que c'est pas tout à fait pas de la même manière. Hein. Évidemment, à droite, notamment la draperie, elle est beaucoup moins. Hein. Voilà. C'est beau, hein. Et c'est monumental. Très grand artiste. Mais ça ne nous empêche pas d'aller vers le sixième. Donc je vous passe les œuvres.
Que de portraits.
Que de portraits. On a là un peintre qui donne dans le portrait.
C'est un autoportrait.
Autoportrait. Donc on aurait là le peintre qui se portraiture lui-même. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette... Donc vous avez déjà dit que ces trois œuvres montraient qu'on était là devant un portraitiste. Hein. Donc on est là dans le portrait. Pas de couleur, un tableau très, très monochrome, plutôt sombre.
Comme le personnage.
Comme le personnage.
Il n'y a pas beaucoup de détails.
Pas beaucoup de détails. Quelque chose qui est comme ça, très...
Les sourcils,
oui. Oui, oui. Donc une peinture comme ça, un peu par à plat. Par contre, pas croûteuse. Hein. Vous remarquez comment c'est lisse.
Oui, oui, c'est lisse.
Assez réaliste. C'est effectivement, vous avez raison, il hein, n'y a pas de détails, c'est fait par grands aplats, alors un peu, mais pas trop. Hein. Et on a là une peinture un peu délavée, hein, ce n'est pas les grands coups de pinceau de paille où à chaque fois il met 3 cm d'épaisseur sur la toile. Quoi, hein. Alors, on est là dans quelque chose de très fluide. Hein. Ok.
Ah, c'est plus coloré.
Plus coloré.
C'est une femme.
Femme.
Un
on a l'impression qu'elle fond, oui, un petit côté déliquescent, presque une glace qui est en train de fondre. Effectivement. Les yeux sont très expressifs. Hein. Les yeux, effectivement, là-dedans, tranchent avec le reste. Hein.
Elle louche.
Mais oui, elle louche.
Hein. Oui, un strabisme divergent, peut-être.
Divergent, oui.
Non, elle regarde sur le côté.
Oh, non, mais
non, parce que l'œil est tout droit.
Peut-être un peu les deux. Bah, les spécialistes vont nous dire.
Hein. Strabisme ou pas ?
S'il s'agit ou non d'un strabisme divergent.
Mais la main est terrifiante.
La main est curieuse.
Ah non, elle est devant une lumière.
Oui, négatif photographique.
S'il y avait une bougie dans dedans.
Donc on a une main au premier plan qui fait penser à un négatif photographique, effectivement. Hein.
Aussi à une radio.
Une partie du visage aussi, oui. Oui. Un côté radio repeinte. Hein. Un côté photo peinte, en tout cas.
Heureusement qu'elle a les cheveux roux. Hein.
Heureusement qu'il y a les cheveux roux, ça relève un peu le niveau. Hein.
Classe.
Méchante maîtresse d'école.
Une maîtresse d'école. Ah oui, il y a effectivement des gens de différents âges.
Ah, j'ai pas vu.
Ça aussi, ça fait allemand.
Ça fait allemand. Un côté expressionniste aussi, peut-être. Un côté expressionniste. Oui, on serait entre, je ne sais pas moi, Nolde et Gonschil, hein, peut-être. Hein.
Oui, il y en a un qui peint un peu comme ça, d'allemand.
Beckmann. Donc un Beckmann tardif, en quelque sorte. Hein. Okay. Max Beckmann.
Mais ce ne sont pas des personnages réels.
Enfin, pas des personnages réels.
Je ne sais pas, en haut, on a l'impression, je ne sais pas dire, mais de voir Hitler, moi, mais bon. Le troisième à partir de la gauche.
Le troisième à partir de la gauche. Ah oui, oh bah, peut-être qu'il a une mèche des années 40. Quoi.
C'est une obsession.
Oui. Depuis Maurizio Cattelan, vous voyez des Hitler partout.
Puis il y a des visages de toutes les
couleurs. Oui, il y a des rouges, mais des jaunes, des verts.
Donc il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des bleus, des personnages. Donc là aussi, vous parlez de... Vous avez parlé de photographie, là, ou pas ?
Oui.
Oui, hein.
Oui, retouche la maîtresse.
C'est ça, hein. C'est ça, voilà. Hein, c'est le côté photo de classe, comme on en fait toujours, hein. Mais qu'on aurait repris, bah, ça nous fait penser à l'œuvre précédente. Hein. On avait vu aussi un côté très photographique. Alors, même combat, génération de ce peintre. Quelle est la génération du peintre en question ? Quel est le sexe de ce peintre ? Ce peintre vient de quel pays et dans quel ordre vous mettriez peut-être les œuvres en question. L'ordre est difficile, on ne va peut-être pas. Hein. Après tout, les œuvres sont assez proches les unes des autres. Mais quel âge ouais. 40 ans, par exemple.
Non.
Et quel pays, peut-être
plus que 40.
Plus que 40, donc un artiste bien confirmé, alors. Hein. Un artiste d'une soixantaine. Ça vous va, ça ?
Oui.
Plus.
Ça va être...
Allemand. Un artiste allemand d'une bonne soixantaine d'années.
J'ai fait beaucoup d'allemands.
Beaucoup d'allemands. Ah ben, il y a une tradition picturale en Allemagne, remarquable. Hein. Voilà. Donc, un artiste allemand né dans les années 50.
Non.
Ça vous va, ça ?
Oui.
Est-ce que le personnage de
droite.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a aux oreilles?
Oh, alors ça, le personnage de droite, là.
C'est couette, non?
Je pense que l'artiste lui-même ne le sait pas. Ça.
C'est pas des couettes?
Je sais pas. Non, à mon avis, ça, c'est un truc du personnage de derrière, là.
Ah, d'accord. Voilà.
Non, c'est quelqu'un qui a une sorte de coiffure un peu à la garçonne, je crois. On a l'impression de la reprise d'une photo de classe des années 30, 40, 30.
Alors, il les a vieillis.
Il y en a qui ont le double d'âge.
Oh, bah oui, oui, plus ou moins. Mais sauf que derrière, je pense que vous avez au premier plan des élèves avec l'instit, hein, et au deuxième plan, mais ils sont des profs, peut-être. Mais on va dire, on ne sait pas, puis on s'en fiche.
Ou alors, c'est les anciens élèves qui ont vendu.
Peut-être, les anciens élèves qui sont venus soutenir les nouveaux.
Mais il y a plus de profs.
Alors, nous allons savoir un peu plus sur ce peintre allemand né dans les années 50. Alors, ce peintre allemand des années 50, en fait, est une femme, et qui n'est pas allemand. Il s'agit d'une femme qui est d'Afrique du Sud. Elle est née au Cap, en Afrique du Sud. Elle s'appelle Marlène Dumas. Cape Town. Et c'est donc elle qui a réalisé les œuvres en question. Je crois que vous avez là aussi pas mal résumé ce qu'il y avait dans les tripes de ces œuvres-là, que je vous ai mis dans... Oui, et là, les cheveux qui ressemblent à... Alors, vous avez bien vu que c'est une peinture faite d'après une photo, à vrai dire d'après une photo maton. En fait, c'est un anonyme, elle ne sait pas qui est cette personne. Je crois, mais je le sais parce que moi, il doit y avoir un peu de l'allemand là-dedans, mais de l'allemand à la sauce Afrique du Sud, ça veut dire le mal est banal. Et donc, vous voyez finalement ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire qu'elle prend une photo maton qu'elle a trouvée, je ne sais où, dans une poubelle, qu'elle met en peinture et qu'elle appelle le mal est banal. Ce qui veut dire quelque part que, en effet, la figure que vous avez là est une figure comme une autre. D'ailleurs, elle l'a tirée au sort dans une poubelle. Donc c'est très banal. Mais, après tout, il peut y avoir du mal même dans cette photo banale. C'est-à-dire qu'il y a un côté, une sorte de méfiance sourde. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de... Un peu comme si dans chaque être humain, il y avait une dimension mauvaise qui pouvait exister. La personne la plus banale, la plus simple, la plus sympathique, est peut-être un peu méchante, un peu mauvaise. Le mal peut être partout. En gros, c'est un peu ça qu'il y a derrière ça. D'ailleurs, vous aviez bien vu le côté un peu inquiétant de cette œuvre faite d'après une photo, cette main un peu photographique et bizarre, prédatrice quelque part, étrange. Je crois que vous avez également vu le caractère un peu étrange, bizarre, de cet instit un peu sévère, qui aurait pu se laver les jambes avant la photo d'ailleurs, et qui trône au milieu de ces pauvres bambins, qui n'ont pas l'air traumatisés pour autant, enfin, sauf ceux du deuxième rang, qui sont un peu rouge ou vert quand même, ou bleu.
Mais il n'y a pas de noir.
Non. Ah non. À cette époque, au Cap, je pense qu'il n'y avait pas intérêt à mélanger l'un et l'autre. Et voilà, une œuvre beaucoup plus récente, Le Croyant.
Mais c'est pas gay.
Non, pas gay du tout. Je crois aussi que c'est pour cette œuvre que vous aviez parlé du côté spectral, n'est-ce pas, un peu diaphane, un peu fantomatique. L'œuvre de Marlène Dumas n'est pas vraiment gay, Ça, c'est sûr. Je suis pas sûr que la situation de l'Afrique du Sud la rende beaucoup plus gay pour autant, d'ailleurs, ni la situation du monde. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui rend compte d'une réalité historique de son temps et de son pays. Alors, nous allons vers un septième artiste. Voilà une. Et deux. Et trois. De la couleur. Ça nous change de Marlène Dumas. Enfin, il y avait une œuvre colorée, mais enfin là, on est dans la couleur, donc de la couleur. Vous voyez quoi là?
Un homme du désert. Oh non, pas un touareg, il est là-bas.
Un homme, pardon.
Un arabe musulman.
Il y a un château.
On a l'impression un château d'ailleurs. Un château, maman?
Non.
Ou une ville?
Une ville. Se dédouble.
Une peinture un peu dédoublée, le haut en haut, le bas en bas. Oui,
c'est ça. C'est l'audio.
Lyrique au-dessus, moins en bas.
Un bateau à gauche.
Un bateau à gauche, peut-être. Donc ce serait un château dans le fond finalement ?
Non.
Ou une île. Peut-être une île. Ce qui fait que le personnage finalement, qu'est-ce qu'il fait là ?
Il sort de l'eau.
Il sort de l'eau.
Il sort de l'eau.
En fait, il a la tête dans l'eau.
Il a la tête dans l'eau. Le sommet du crâne hors de l'eau.
Voilà, le sommet du crâne hors de l'eau. C'est un type qui est dans l'eau, pas dans l'eau. Quoi. C'est pour ça qu'il ferme les yeux d'ailleurs. Il est dans l'eau.
Hein ? Il n'a qu'un sourcil. D'accord. Non, mais c'est la vague qui est chaud. Qui...
Ah, oui. Ok ? Oui, il y a de l'eau qui...
Donc il travaille sur l'eau. Parce qu'on a encore de l'eau. C'est encore de l'eau devant et
une sorte d'œil. C'est de l'eau devant.
Ah non, c'est une route.
C'est une route. En fait, c'est une route. Quoi. C'est une route, il y a les bandes blanches, il y a la barrière de sécurité. Il y a une sorte de tunnel dans le fond.
Et puis il y a des bâtiments.
Des bâtiments là-bas, derrière un. Une forêt, un bois, que sais-je. Alors, vous diriez quoi de cette peinture, comme de l'autre, après tout ?
La composition est intéressante, elle est toute étroite. Ouais. Il y a deux courbes, les arbres, le tunnel,
ouais.
Qui fait comme un œil, comme un...
Ouais. Donc, une composition effectivement intéressante, hein, c'est-à-dire qu'il y a une composition, tout ça est organisé. Voilà, un peu hiérarchisé, on retrouve un peu les deux niveaux dont vous parliez, il y en a même peut-être plus que deux ici.
Trois,
ouais.
Un beau ciel.
On peut y voir l'œil de je ne sais quoi, hein, de quelqu'un comme de la police peut-être. Ouais. Et cette vue, vous auriez quoi en dire, ce paysage qui est là ?
Pas très rassurant.
Pas très rassurant.
Les deux sont c'est frontal chaque fois.
Frontal, très frontal, très... c'est vrai. Ouais, ouais. Et c'est le côté très construit, hein, que vous disiez tout à l'heure.
Mais construit perpendiculaire, enfin
oui. Parallèle. Oui, c'est frontal, vous avez, c'est juste. Hein. Et oui, ce paysage vous inspire quoi ? Vous dites que ce n'était pas très rassurant.
Genre. Ah, c'est le ciel qui est un
peu... Le ciel ?
Il est beau,
beau ciel, hein, avec des irisations, des moirures.
Il n'y a pas de perspective.
Pas de perspective. Et c'est donc un paysage que vous qualifieriez de quoi autrement ?
Un peu triste.
Un peu triste ? Extraordinaire ?
Non.
Je dirais même d'une banalité absolue.
Oui, tout à fait.
On est d'accord, hein ?
C'est quand même l'invasion de la structure ciment dans la nature.
Voilà, donc c'est plutôt la manière de le représenter qui fait que c'est singulier, oui. Mais le paysage lumière lui-même est assez banal. Oui. Hein. Oui. Et à la parce qu'à vrai dire, vous allez à la ZUP, là, vous allez voir des tas de choses d'une banalité confondante, mais si vous les regardez d'une certaine manière, ça va devenir passionnant. Hein. Vraiment, c'est la chose ici. Parce que là, vous avez une bouche d'égout avec une barrière de sécurité et des lignes blanches, c'est pas quoi la fouetter un chat, hein. Mais effectivement, la manière, vous l'avez bien senti, hein, dont c'est composé, fait que quelque chose de banalissime, le bâtiment dans le fond a l'air d'avoir aucun intérêt, hein, quelque chose de banalissime devient intéressant. Même ce bout de tunnel qui doit charrier des eaux usées devient quelque chose de singulier.
Et encore, c'est barré. C'est chaque fois barré.
Voilà, hein, effectivement, on est toujours dans ces compositions très barrées, très organisées, hein, frontales, coupées un peu en deux ou en trois. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Donc, effectivement, vous notez l'espèce de structuration, hein, que l'on voit d'une œuvre à une autre. On est dans, là chez un artiste, effectivement, très organisé. Hein. OK ? Et au niveau de la représentation, vous diriez quoi ?
C'est un...
Oui,
un hippie.
Une sorte de hippie en canoë qui a perdu ses rames. Donc qu'est-ce qui lui arrive ?
Il dérive.
Il dérive. Et qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il nous regarde. Et puis, oui, il est un peu. Il est à la dérive, quoi. C'est donc moyennement charmant.
Mais
quoi, hein.
Cette zone blanche, c'est quoi ?
Oui, qu'est-ce que c'est ?
Ben, on ne sait pas. C'est peut-être quoi ?
De la glace,
de la neige. Voilà, peut-être le long d'un glacier. Alors, là, oui, il est bien découvert. Moi, les hippies, vous savez, ils font n'importe quoi.
Mais à la limite, c'est bleu-blanc-rouge.
Oui, un peu des bleu-blanc-rouge.
Mais c'est un Hollandais, alors.
Ah, c'est un Hollandais. Alors, donc, on est là devant un artiste hollandais. Non, pas. Alors, quel est le sexe de l'artiste, son âge et sa nationalité ?
Un homme.
Un Américain.
Ah oui, parce que le blanc-rouge aussi, hein, l'anglais.
Un homme américain, Et de quelle génération?
Hippie.
Ah, 40 ans. Non, on va pas dire 40 ans. J'essaie de vous le caser depuis. Donc il n'a pas 40 ans. Alors il a quel âge?
50.
Ah oui, mais 50, 40, c'est pareil.
Non, 50.
Oh,
c'est un hippie, il a 70 ans.
Bon, donc c'est un. Alors il est plus jeune que 40 ou plus vieux?
Plus vieux.
Plus vieux. Donc c'est un homme de 55 ans. Allez.
Ah, plus.
Plus, 60.
Allez, plus.
Allez, je vous le laisse à 60. Un Américain, 60 ans. Ça vous va, ça? Un Américain, 60 ans. Allons-y. Alors, voilà. Un Américain ou une Américaine?
Une.
Une Américaine.
Un ou une?
Un.
Une.
On passe les trois pour qu'on puisse dire.
On passe les trois. Donc voilà, un Américain, mais il y a des voix qui voient plutôt une Américaine de 60 ans. Alors, on va voir à quoi ressemble notre Américaine de 60 ans. Ce serait plutôt un Américain, sauf qu'il n'est pas Américain.
Il est écossais.
Il est né en 59.
Oui,
ça se présente. Il y a pas 40 ans, enfin. Voilà, j'ai dit qu'il n'avait pas 40 ans.
Non, on avait dit 5 ans.
Voilà. Alors, je ne sais pas exactement comment on doit prononcer son nom. Moi, je l'appelle Peter Dwang. Mais avec les Écossais, vous savez, il y a des accents spéciaux. Hein. On sait peut-être Dol, Boul, je ne sais pas quoi. Enfin, Peter Dwang. Hein. Et vous avez là aussi bien caractérisé son œuvre. Hein. C'est bien, je trouve. Je crois que vous avez bien remarqué à la fois le côté comme ça, très organisé. C'est vraiment un peintre, hein. Un peintre qui se pose des problèmes de couleurs, de compositions. En fait, la grande caractéristique de tous ces peintres, c'était le cas par exemple de Gerhard Richter au départ, hein. C'est vraiment de faire de la peinture. Ce qui les intéresse, c'est de peindre. Hein. Alors après, ça représente ce qu'on veut, ils n'ont rien à faire. Hein. C'est pas vraiment son problème. Ce qui l'intéresse, c'est de peindre. Alors il peint des sujets qui l'intéressent au fur et à mesure de ce qui l'intéresse. Donc il n'a pas, Dwang, au niveau de ça, il n'a pas de mantra, je ne dis pas, moi je vais représenter le désastre de l'humanité, non. Ce qu'il a là, c'est de peindre. Voilà. Alors après, il peint des routes, parce que une route, ça peut être bien, ça peut l'intéresser.
Il y a une coquille en bas, non
c'est peut-être.
Le détrempe, c'est la
détrempe. Ah, la détrempe.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai marqué?
Le détrempe est passé.
Oui, la détrempe. Oui, des trempes, j'ai mis des trempes. Et là aussi, j'ai peut-être fait la même chose. Et c'est la détrempe. Je suis un peu dyslexique. Voilà. Donc ce portrait sous l'eau. Et puis cette œuvre-là qui est très très célèbre, hein, d'ailleurs. Très célèbre parce que pendant quelques mois, ce tableau a été l'œuvre d'art la plus chère du monde.
Oui,
oui. Ce tableau-là, alors je ne peux pas dire les prix parce que je m'intéresse pas plus que ça, etc. Mais c'est quand même pour vous donner une info. Ce tableau a été pendant quelques mois l'œuvre la plus chère que Jeff Koons encore, hein, c'est vous dire. Hein. Ça a été acheté, on ne sait pas dire pas par qui, mais cette œuvre-là a été un temps, c'est plus le cas maintenant, il y a eu des œuvres encore plus chères, mais l'œuvre d'art la plus chère du monde. Effectivement, c'est tout ce que vous dites. On sait, ce paysage qui n'a pas un intérêt terrible est organisé d'une manière comme ça, très normée. Avec ce canoë qui vague à la dérive, avec un type dedans dont on ne sait pas, qui hésite entre l'homme préhistorique et le hippie désabusé, et qui est là sans rame, et qui nous regarde en disant mais où est-ce que je vais? Et quelquefois, non, c'est une œuvre, je crois que c'est ce qui a pu faire son succès, hein, que l'on s'est discuté. C'est une œuvre qui, quelque part, montre une espèce de monde qui va là où il va. Mais on n'a plus de rame pour l'emmener. Quelque part, c'est une œuvre extraordinairement symptomatique de notre époque. Hein. Très belle touche. C'est vraiment tout ça, c'est des peintres. Hein. On est vraiment chez des peintres. Hein. C'est des gens qui peignent, donc qui se posent des problèmes de touche, de matière, de couleur, de composition. Hein. Leur problème numéro un à tous ces gens-là, c'est ça. Vite, l'avant-dernier. Alors, je vous passe les trois photos. On est à peu près dans les temps. C'est bien.
Il y a Obama à gauche.
Vous reconnaissez Barack.
Oui, et puis.
Et profitez-en, parce que bientôt, on aura Trump, ce sera beaucoup moins libre. Alors, qu'est-ce que vous voyez là, par exemple? Pardon?
Oui, ça fait.
Ah, du street art. Ça fait penser à ça, effectivement. Hein. Un art de rue, hein, peut-être fait sur un mur. Ou... Ouais.
Non.
Non.
ça fait BD.
Je pense à Dali.
Un côté BD, un côté BD. Dali.
Ouais.
Dali.
Oui, oui, on dirait une pelure de, d'orange.
Ouais. Hein. C'est un Américain.
Un Américain.
Oui,
un Mexicain. Oui, ou un Mexicain. Ah, ça fait penser à l'air mexicain, notamment des années du milieu du XXe siècle. Hein, Diego Rivera, Frida Kahlo, et Siqueiros, etc. Tous ces grands artistes qu'on connaissait pas en France, absolument.
Non, il a l'esprit vide.
C'est étrange quand même, cette façon de peindre. Avec des bandes.
Mmh. Ben, c'est curieux, oui.
La tête jusqu'au thorax.
Oui, c'est assez curieux, c'est très bizarre. Il y a un côté surréaliste, hein, vous l'avez noté, effectivement. Ça fait, c'est mieux que Dali, bien sûr, tout est mieux que Dali, de toute façon. Mais ça fait penser à Dali. Hein. Voilà. Je ne dis pas Dali, je l'aurais connu.
Il n'y a pas de cerveau.
Quand je dis j'aime pas Dali, ça allait un peu vite, mais bon.
Oui,
c'est pas le problème, de toute façon, c'est pas le problème.
Afrique,
alors là, oui, voilà. Mandela à droite, Obama à gauche. Hein.
Et au milieu,
c'est le peintre.
Ben, c'est le peintre, effectivement.
Le peintre.
J'ai essayé de savoir et je sais pas. Mais c'est peut-être lui, effectivement. Pardon.
Un afro-américain.
Un afro-américain d'une quarantaine d'années.
Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Derrière, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a l'Afrique.
Il y a l'Afrique.
C'est
là.
Alors,
l'Afrique.
Il y a l'Afrique tout court. Africain du Sud.
Et puis, il y a quoi?
Une dent.
Des dents.
Ah,
c'est les racines. Ça montre les racines.
Les racines des dents.
Oui, sur les molaires.
Donc, c'est un afro-américain dont les racines sont en Afrique.
Voilà.
Ok. Entre Obama et Mandela.
Donc c'est un peintre très récent puisqu'il vient de peindre Obama.
Afrique du Sud ou Amérique?
Alors là, c'était à base de courgettes.
À base de courgettes.
J'avais pas vu.
C'était un lit
de courgettes.
Non, une coloquinte.
Pastèque, hein.
Ah non.
Vous avez deux pastèques, hein. Une à droite et une en haut, hein. Bon, et là, vous diriez quoi? Pastèque, oui.
Ah bah alors ça fait...
C'est très joli.
Joli, hein.
C'est
charmant,
c'est,
hein.
C'est
suffisamment exotique.
Oui.
Coloré.
C'est
un gentil sujet. Je change un peu de Marlène Dumas.
Les volumes sont bien sentis.
Oui, quelque chose de bien... C'est pour ça qu'aussi on parlait tout à l'heure de ces Mexicains qui, dans les années 30, 40, cernaient bien comme ça. Il y a un côté comme ça. Certains ont parlé d'Haïti aussi. Hein. Il se passe des choses intéressantes à Haïti. Hein. On a des artistes comme ça aussi. Hein.
Antillais, donc.
Antillais. Donc, un artiste antillais de 40 ans.
Non,
50. Bon. Alors, une artiste antillaise de...
Bah, récent.
30 ans.
Non.
40. Avant d'avoir 30 ans, hein, de pain. Alors, dernier prix. D'abord, le sexe.
Un homme. Un garçon.
Un homme.
Non, une femme.
Non, une femme.
Un homme.
Il y a une sensibilité féminine là-dedans.
Une femme.
Allez, une femme. Allons-y. Donc, une femme. Ensuite, nationalité.
Allemande.
On a le droit de vivre dangereusement, hein. Donc une Allemande.
Non.
Américaine. Américaine. Une Américaine. Une Haïtienne. On hésite entre l'Europe et l'Amérique.
L'Europe?
Non.
Bah, Allemande, quelqu'un des Allemands, là.
Bon, non.
Ah,
c'était une blague.
Alors, entre Haïti et l'Amérique. Bon, Haïti est un peu en Amérique. Dans le corps d'Amérique, c'est pas que les États-Unis. Souvent, on dit Amérique ou les États-Unis. On se trouve un peu, hein.
Allez, c'est Brésil.
Je sais bien que Trump veut que le monde entier soit américain. Enfin, il faut agir un peu, hein. L'Amérique, c'est la totalité du continent. Hein. Les États-Unis, c'est que les États-Unis. Hein. Voilà. Donc, une artiste du continent américain.
Non, du Nil.
Du Nil.
Haïti.
Et et enfin, l'âge?
Assez jeune.
Assez jeune. Donc une jeune artiste haïtienne.
Enfin, jeune.
Non, mais jeune, 40 ans, quoi. 40 ans, c'est bien. Une jeune artiste haïtienne. On est d'accord? Eh bien, c'est un artiste né en 56. Alors vous me direz, il a 60 ans, donc il est tout à fait jeune. Un jeune artiste né en 56, très bonne année, 56. Et qui n'est pas du tout haïtien. Hein, 56, c'est une bonne année. Et qui est en fait congolais. Un artiste congolais. Donc c'est un artiste africain. Il est vraiment africain de chez Avril, il vit au Congo, il est congolais.
Il peint sur toile.
Ouais. Il y a eu d'ailleurs la Fondation Cartier pour l'art contemporain, il y a quelques années, une très belle exposition qui s'appelait Beauté Congo, je crois, sur la peinture congolaise depuis le début du XXe siècle, chose dont on ne parle bien sûr jamais. Hein. Et en fait, il y a des quantités de peintres très intéressants. Dont Chéri Samba, mais qui n'est pas seul, il y a vraiment une vraie école. Il y a des grandes, il y a des plus petites. Vous avez bien compris aussi comment il y avait un propos à la fois politique, hein, Mandela, Obama, etc., une dimension à la fois sociale, hein, mais aussi gentiment exotique. Alors c'est un artiste à la fois très engagé, etc., mais en même temps, qui n'est pas toujours à lever le poing et à revendiquer, si vous voulez. Il est dans une sorte de revendication réelle, assez douce, une poésie, mais qui est quand même militante. Il est un peu dans les deux. Quelqu'un qui à la fois se revendique africain, qui vit en Afrique, parce que ça facile aussi d'être un peintre africain et de vivre à Paris. Mais lui vit au Congo, voilà. Donc il revendique ça, mais sans non plus dire que la colonisation a été qu'un drame épouvantable, etc. Donc il est dans une espèce comme ça, de manière de peser les choses. Voilà, une sorte de synthèse assez intéressante, je crois, de ça. Et c'est aujourd'hui sur le continent africain, certainement un artiste proche du street art, hein, vous avez raison, et qui peut avoir des dimensions surréalistes, mais qui sont, j'allais dire, qui sont... Qui viennent des origines, parce que comment, le surréalisme, une des bases du surréalisme, c'est aussi ce qu'on appelle les arts premiers. Hein. Vous savez, les Bretons étaient un grand collectionneur de fétiches africains avec des clous partout, avec un bras et pas de jambes, ou cinq jambes et deux têtes, enfin voilà. Donc les surréalistes se sont inspirés de ça. Sauf que lui, il s'inspire de ce qui est son propre pays. Si vous voulez. Donc j'allais dire, le surréalisme, c'est pas surréalisme, mais inspire, c'est la culture africaine qui est inspirée sur la liste, vous voyez ce que je veux dire. C'est direct, en plus. Les origines. Allez, puis on va se termininer par... Ah ben, voilà, vous connaissez... Oui, donc, pardon. Amour et pastèque. Effectivement. J'aime la couleur, c'est un autoportrait.
Mais là, c'est pas...
Oui, il faut réfléchir. Il n'a pas tort. 9e et dernier, on ne va pas sortir ton portrait aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle.
Oh, c'est joli. C'est fin. Oh, c'est léger.
Alors,
joue sur les transparents.
Ça fait penser à... À Vendongen, un petit côté Vendongen, je comprends ce que vous voulez dire, ouais. Transparent. Hein, des personnages spectraux, on en aura vu des spectres aujourd'hui.
Superposition, hein. Le paysage passe à travers l'un des personnages.
C'est ça, hein, on a l'impression qu'ils sont transparents, ils sont là sans être là.
Les ombres.
Oui, alors il y a des ombres en même temps, les ombres sont presque plus présentes que les personnages eux-mêmes. D'ailleurs, dans certains cas, il y a des ombres alors qu'il n'y a pas de personnage. Hein. Oui, ils sont transparents.
C'est l'ombre d'un.
Ouais.
C'est
assez doux. C'est une sorte de douceur étrange, non?
Oui.
Ce sont ces personnages qui n'existent pas. Le personnage du premier plan, on voit son short, mais on ne voit pas son buste, par exemple. Quasiment pas.
Fantomatique.
Une sorte de fantôme. Il y avait un feuilleton des années 60, vous savez, d'un type qui apparaissait, disparaissait, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est un peu ça, oui, c'est ça.
Ils regardent tous un point.
Oui, ils regardent tous quelque chose.
Peut-être un nageur. Peut-être.
Et en vrai, on ne sait pas trop, parce qu'ils regardent visiblement par là, sauf que là, il n'y a rien. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y en a une qui n'a pas vraiment de tête, parce que le bizarre, c'est que elle est cachée par ce bonhomme, mais ce bonhomme, on voit le paysage, mais pas la tête de la fille. C'est vraiment bizarre. Hein. Alors dire quand on regarde, c'est étrange. Hein. On a une composition très spéciale.
Mais pas au premier abord.
Mais pas au premier abord. Au premier abord, on se dit, oh, ben, c'est pas un problème. C'est une de ces scènes qu'on voit partout au bord d'une pièce d'eau. Hein. Et en fait, quand on regarde, c'est étrange, c'est bizarre. Les ondes correspondent à des gens qui ne sont pas là. Les gens qui sont là disparaissent. Et d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment toute leur partie du corps.
Puis ça fait illustration aussi.
Il y a un côté illustration. Oui. Presque un peu photo de magazine. Hein. Vous savez, dans je sais pas moi, Closer, vous avez des milliers de photos comme ça. Hein. Alors, ils sont pas aussi belles, mais enfin. Hein. Bon. On se regarde le deuxième tableau. Transparence, toujours.
Ombre, toujours.
Ombre, toujours. Ouais. Une ombre qui ne correspond pas vraiment à cette pauvre échelle transparente du premier plan.
C'est une échelle. Paysage.
Bah, c'est un genre d'échelle. Vous voyez, on monte d'un côté, on part de l'autre.
Je pense que c'est un jeu
d'enfant. Ben oui, un jeu d'enfant. Quoi.
C'est une échelle de piscine.
Ouais,
ouais.
Ah, une échelle de piscine.
Oui.
Ouais. On monte des deux côtés comme ça. Voilà, donc les échelles. Bon, le bizarre, c'est qu'elle n'est pas au bord de la piscine. Ouais. La piscine, c'est nous. Donc voilà une échelle de piscine sans piscine. D'ailleurs, l'échelle de piscine, elle est un peu transparente. Hein. Elle va nous faire le coup des gens tout à l'heure. Elle va disparaître. Elle a des ombres qui n'en sont pas.
Un nuage qui ressemble à un comprimé géant.
Oui, un nuage qui ressemble à un comprimé à l'horizon. Expression d'un Alka-Seltzer en ébullition.
C'est une tache rouge.
Oui.
Une tache rouge qui débarque.
Un arrosoir.
Ah oui.
On dirait que la peinture dégouline quand même.
Oui. La peinture dégouline. Regardez comme ça dégouline. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a une, vous l'avez remarqué déjà sur la peinture précédente, une subtilité de la peinture, des couleurs, ça, puis en même temps, il y a un côté un peu bâclé. Quoi, hein. C'est bien réalisé, il y a des couleurs, ça, et en même temps, ça dégouline. Hein. C'est pas très propre, tout ça.
C'est toujours
ouais. Pas
très long. On retrouve le fantomatique, on ne sait pas ce que c'est.
Mais oui. Bah, on retrouve un peu la même chose. Hein. Voilà, on retrouve le côté un peu fantomatique, on ne sait pas ce que c'est que cette chose qui est là, une sorte de pantalon qui marche tout seul. Vous avez parlé des ombres, et vous avez remarqué qu'elles vont dans tous les sens.
Les troncs d'arbres n'entrent pas dans le sol.
Oui, les arbres ont l'air un peu lévités. Bon. D'ailleurs, ils sont singulièrement transparents. Hein.
Oui.
En fait, vous avez quelque chose qui paraît un peu plus matériologique, mais en fait, quand on regarde, puis, on a le même côté spectral.
Une architecture.
Le bâtiment.
Une architecture. Moderne. Ouais. Moderne. Blocos, oui. Qui est entre le blocos et l'église orthodoxe.
C'est pas...
Si, ouais, vous savez, avec ces beaux volumes d'église orthodoxe. C'est très volumétrique, l'église orthodoxe. C'est très beau. Hein. Oui, byzantine. Et cette chose qui avance, pas trop. C'est mystérieux.
Le ciel est présent, très présent.
Donc une sorte de subtilité spectrale et mystérieuse de scènes plus ou moins quotidiennes et qui sont ni banales ni pas. Hein, parce que, après tout, notre échelle de piscine, bon, on ne sait pas ce qu'elle fait là, parce qu'il n'y a pas de piscine. Bon. Puis d'ailleurs, elle disparaît, donc il n'y a déjà plus d'échelle, mais. Le paysage d'avant, vous vous rappelez, hein, il était assez banal. Je veux dire, c'est pas, on ne se dit pas, oh, quel sublime paysage.
Ah, non.
C'est un peu comme Douane tout à l'heure. Ce n'est pas un paysage inouï avec des ravins, des collines. Et des... Bon,
c'est un
paysage. Ouais. Là, c'est pareil. De toute façon, on ne sait même pas ce qu'il y a dans le fond. Voilà. Et alors là aussi, même combat. Est-ce que vous avez une idée du sexe, de l'âge et de la nationalité du personnage ? Ça, c'est la petite virgule à chaque fois pour piquer un peu. Une femme.
Non.
Une américaine.
Britannique ?
Non.
Europe du Nord ?
Non. Moi, j'avais anglaise parce que.
Anglais.
Anglais, pour avoir l'esprit tordu comme ça.
Oui, mais en même temps, ça fait penser à.
Suédois. Nordique.
Non.
Alors, impossible. Ah si, il faut se mouiller. D'ailleurs, on a vu suffisamment de pistes.
Alors, et les ombres vont les unes dans un sens et l'autre...
Oui, 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 ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas, cette histoire. Hein.
Bon, apatride.
Alors, d'abord, le sexe. On commence par là. Homme, femme.
Homme.
Il y a des femmes. Bien. L'âge.
40 ans.
40 ans. C'est gentil. Merci. Quelqu'un qui me soutient. 40 ans. Et la nationalité.
Anglais.
Américaine.
Italien. Un Américain.
Anglais.
Alors, Australien. Le monde entier est convoqué. Bien. Donc, si je comprends bien, on a un homme de 40 ans qui est soit américain, soit australien, donc le Nouveau Monde, soit de l'Europe, du Nord, du Sud. Hein, parce que j'ai entendu. Mais le Nord a l'air de bien... marche bien. Hein. On y va ? Eh bien, c'est le français de l'État. Enfin, le deuxième, parce que lui, il est français. Hein. Marc des Grands Champs. Marc des Grands Champs, qui est un des peintres français dont on parle le plus actuellement, sans doute. Hein. Ouais. Voilà. Je crois qu'il y a exposé, oui. Il a exposé. Ah, vous voulez dire le lieu qui a présenté ? Ah, ben peut-être. Tiens, j'y ai pas pensé. Mais je crois qu'il y a. Je crois qu'il y a exposé. En tout cas, il y a eu une exposition lui récemment à la Monnaie de Paris. Et voilà, c'est un artiste dont on parle beaucoup. Alors ça, c'était l'œuvre la plus ancienne, qui est peut-être la moins spectrale, encore que ce pantalon qui marche tout seul, il est quand même un peu. Mais et là, c'est 84, c'est déjà un peu ancien. Hein. Il est né en 60. Hein. Et vous voyez qu'on va vers des œuvres de plus en plus.
Son titre,
oui. Oui, parce que là, ça s'appelle Ôté, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Non, parce que pour lui, comme pour les autres, hein, le problème, c'est pas forcément de comment dire, le but n'est pas d'abord de raconter une histoire. Alors, ça en montre une, et puis on se fait notre histoire. Mais le but est vraiment de faire de la peinture. Alors après, voilà, c'est vraiment que tous ces gens-là sont des gens qui se posent des problèmes de peinture, la touche, la composition, la couleur. Alors après, ils disent plus ou moins de choses. Hein. Thierry Samba, par exemple, est très verbeux. Hein. Quand quelqu'un comme Gerhard Richter est quelqu'un, au contraire, qui est plutôt dans le mutisme, hein, comme Peter Dwag, par exemple. Hein. Donc ce qui fait qu'avec ce panorama qu'on a eu aujourd'hui, qui vraiment concernait que des peintres, de chez peintres, hein, des peintres qui sont plutôt dans la tradition de la peinture, aucun abstrait, sauf Richter quand même, hein, des artistes, j'allais dire, qui sont dans la tradition picturale, et enfin, ce panorama que vous avez là, je crois, montre assez bien, il y en aura eu d'autres, hein, mais on ne pouvait pas en mettre 50, à l'état de la peinture d'aujourd'hui. Alors bravo.
Merci.
Bonne soirée à vous. C'était bien.